Né à Terre, il vient d'avoir une fille. Sa fille a été baptisée à l'église, à la petite communauté catholique française de Téhéran, et nous sommes allés au baptême. Si ce vaste pays, trois fois grand comme la France, est en Asie, son histoire se trouve mêlée à celle de l'Europe, ne serait-ce que depuis Alexandre le Grand. Cette courte visite, qui n'a guère duré que 3 semaines, cette courte visite m'a conduit à plusieurs réflexions que j'ai tenté de rassembler en 7 remarques pittoresques, 7 remarques de géographie physique et humaine et 7 remarques d'ordre philosophique et spirituel. J'en ai bien fait la liste, mais un premier essai m'a montré que l'exposé complet était un peu long. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui les remarques pittoresques, les remarques sur la civilisation, nous prendrons après ça les remarques spirituelles qui sont quand même intéressantes en ce sens qu'elles nous incitent à aller plus en avant pour montrer à tous ces pauvres peuples un peu égarés la grandeur de notre religion, la grandeur de notre civilisation chrétienne, ce que notre pape n'arrête pas de rappeler. Donc, aujourd'hui, vous n'aurez rien de très spirituel, simplement un compte-rendu touristique, un petit peu comme dans ma promenade en Europe chrétienne. Sauf que là, c'est une promenade en Perse musulmane. Les 7 souvenirs pittoresques. D'abord, la circulation automobile est proprement démentielle. Entre 2 embouteillages, les voitures se frôlent à toute vitesse au milieu d'un essaim de motocyclettes qui virevoltent. On a la sensation de frôler une catastrophe par minute. Je me rappelle avoir dit au chauffeur qui comprenait un peu le français à un moment, il frôlait quelqu'un, j'ai dit « attention les fesses », il a éclaté de rire. De plus, les plaques d'immatriculation sont gravées avec des chiffres que je qualifierais d'islamiques, puisque nous appelons les nôtres chiffres arabes. Mais ce ne sont plus les mêmes qu'en France. Donc on ne se trouve décidément plus en Europe. Deuxièmement, les cabinets, les toilettes. Elles sont à la turque, bien sûr, complètement dépourvues de papier, mais munies d'un petit tuyau d'arrosage qui permet de s'administrer une douche à l'endroit intéressé. Je n'avais jamais rien vu de semblable. D'aucuns ont dit qu'ils ont vu ça dans d'autres pays du Moyen-Orient. Ça m'a bien amusé. Troisièmement, comme dans beaucoup de pays émergents, comme la Turquie, l'Indonésie, la monnaie locale est de peu de valeur. Il faut 10 000 rials pour un dollar, 13 000 rials pour un euro. Même si la vie n'est pas chère, on atteint rapidement des sommes astronomiques. Une première conséquence est l'emploi dans la pratique de plusieurs multiples, le tauman qui vaut 10 rials et le billet qui en vaut 10 000, c'est-à-dire pratiquement un dollar. Cela ne facilite guère la lecture des prix dans les magasins, même si on a pu déchiffrer les chiffres islamiques. On ne sait pas très bien quelle est l'unité choisie. La deuxième difficulté est le nombre de billets que l'on doit avoir en poche, car les cartes bleues n'est acceptée nulle part en raison de l'embargo financier imposé au pays. Donc toutes les transactions doivent se faire en argent liquide. Après avoir changé 200 euros, une petite somme, j'ai dû enfonder dans ma poche 130 billets de 20 000 rials. Je n'avais pas l'habitude de manier d'aussi fortes liasses. Et il faut, par bonheur, les employés des hôtels ont un curieux appareil. On pose la liasse dessus, l'appareil trie avec des petits claques et donne le nombre de billets après quelques secondes. Naturellement, attention à ne pas se tromper sur la valeur des billets. Ceux de 50 000 rials sont presque de la même couleur que ceux de 500 000. La faune et la flore ont aussi leur singularité. Les platanes sont hauts et minces, les fleurs de rosiers rouges et jaunes et les corbeaux noirs et gris. La gastronomie comporte d'excellentes soupes avec des grains d'orge, mais on n'en sert qu'au déjeuner. Il y a de fort bons ragoûts aux aubergines ou servis dans une sauce aux noix et aux grenades, le tout parfumé de curcuma. On ne met pas de couteau à table. Les crevettes panées du golfe persique sont excellentes. Invités dans une famille iranienne, nous avons pu déguster des feuilles de choux farcies ou des côtelettes baignées aux pommes de terre et aux oignons, abondamment toujours parfumées au curcuma. L'accompagnement se réduit le plus souvent à un riz, parfois aromatisé aux herbes, très sec, et on peut y mettre du yaourt dedans. Le tout est peu épicé. La cuisine iranienne n'est pas du tout agressive, elle n'est pas violente. À noter une savoureuse confiture de carottes, je n'en avais jamais mangé, mais c'est excellent. La recette serait à essayer. Le pain ressemble à une grosse crêpe cuite par le boulanger devant le client. On la plie en deux ou quatre avant de la donner toute chaude. Telle quelle, elle est succulente. Au bout d'une demi-journée, elle devient un petit peu sèche. Enfin, on peut très bien vous inviter à déguster le café ou le thé de l'amitié sur la pelouse d'un rond-point d'autoroute. On arrête la voiture en bordure de la chaussée, on installe tranquillement une nappe sur la pelouse et puis on boit la tasse ensemble. Campagne un terme à la mode, c'est très convivial. Pour un Européen moyen, c'est plutôt surprenant. Les souvenirs de civilisation vont plus au fond des choses. Le pays tel que nous l'avons vu est un ensemble de montagnes, parfois enneigées en hiver, elle culmine à plus de 6000 mètres, parfois enneigées en hiver, mais complètement sèches ensuite, trônant sur un plateau désertique d'environ 1500 mètres d'altitude, entre lesquels se glissent quelques zones vertes. Téhéran est entre 1500 et 2000 mètres et 1800 mètres d'altitude. L'eau nécessaire aux cultures et aux jardins, les roses d'Ispahan sont célèbres, est amenée par un ensemble de canaux souterrains et de puits datant d'avant l'ère chrétienne. On se rappelle que dans l'Antiquité, Perses et Mésopotamiens étaient illustres pour leur maîtrise de l'irrigation. Au IVe siècle, ils avaient même mis au point des moulins à eau, comme nous avons pu voir, pour moudre le grain. L'eau, on ne la voit jamais, mais elle est là quand même, puisqu'il y a des jardins et de la verdure. Deuxième remarque, l'amabilité et le sens de l'hospitalité des Perses est surprenante. On se sent entouré d'une curiosité bienveillante. Ce n'est plus comment peut-on être persan, mais comment peut-on être français. D'où venez-vous? De France? Alors bienvenue. L'un de ceux qui nous a abordés nous a même dit, en anglais et en riant, allez dire à Sarkozy que l'Iran est un beau pays et les Iraniens des gens très aimables. Ma femme et moi avons été souvent pris en photo avec de grands sourires. Il est vrai que nous n'avions pas tout à fait le type du pays. Mais attention, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Indo-Européens. Troisièmement, le français qui était parlé assez largement il y a une soixantaine d'années a malheureusement beaucoup reculé devant l'anglais. La culture et le raffinement, les musées des palais des 19e et 20e siècles sont pleins de meubles et de peintures françaises, ont cédé devant le pétrole. Mais lorsque les Persans parlent français, ils le font pratiquement sans accent. Il n'en est pas de même de l'anglais que j'ai eu parfois quelques peines à reconnaître dans leur bouche. À noter que merci se dit merci. C'est quand même plus flatteur que s'il s'agissait de gangsters, de bluff ou de hold-up. Quatrièmement, les Iraniennes sont dans l'ensemble fort jolies. Elles cachent leur chevelure, plus ou moins, mais laissent voir tout l'ovale de leur visage. Ce n'est pas du tout la burqa de l'Afghanistan. Elles savent à merveille farder leurs yeux, redessinant leurs sourcils et voilant leurs paupières d'une ombre délicate qui n'a rien à voir avec la peinture dont certaines pseudo-élégantes se tartinent en France. Elles ont de fort beaux sourires, en particulier lorsqu'elles disent « bienvenue » ou « au revoir », qui sont souvent les seuls mots français qu'elles connaissent. Les petites filles des pensionnats, toujours très gaies, sont vêtues de tuniques descendantes aux chevilles, mais de toutes les couleurs, noires, bleues, vertes, roses. Nous en avons vu rire aux éclats en se roulant dans l'herbe sur la pente d'un talus. Les longitudes passent, la nature des fillettes reste. Cinquièmement, si les villes, en particulier Téhéran, manquent d'unité sur le plan de l'urbanisation, leurs rues sont en général propres, malgré quelques sacs et papiers. Les dépôts sauvages sont dans les montagnes, à 10 ou 20 kilomètres. L'assainissement semble remplir son rôle, car il n'y a nulle mauvaise odeur dans la ville. En tant que professionnel, j'ai apprécié. Les routes et autoroutes sont bien entretenues et les voitures en bon état. Tout cela n'a d'ailleurs à bien meilleure allure que ne l'était la pauvre Allemagne de l'Est pendant la dictature communiste. Sixièmement, nous avons évidemment visité nombre de mosquées puisqu'on pouvait y entrer sans chaussures, parfois pour les femmes avec un chador fourni à l'entrée. Ces bâtiments souvent imposants sont constitués d'une suite de coupoles. Les musulmans en général ne semblent pas connaître les nefs de nos cathédrales. En conséquence, il y a toujours un grand nombre de colonnes à l'intérieur même du bâtiment. Ces coupoles sont abondamment décorées, mais comme toute représentation humaine ou animale est interdite, sauf à la rigueur quelques oiseaux, les décorations se ramènent à des motifs géométriques ou floraux. Au début, on employait des carreaux monochromes taillés pour dessiner les motifs. Par la suite, pour des raisons économiques, on utilisa des carreaux vernissés. Mais cela n'avait plus la même noblesse. À noter un minaret mobile. Le sacristain, peut-on dire, monte dedans à heure fixe et secoue le minaret comme un prunier. Il paraît que ça fait 400 ans que ça dure, le minaret est toujours en place. Ça nous a bien étonné. Les deux grandes fantaisies consistent à garnir les plafonds de protubérances parfois extravagantes ou de les parsemer de miroirs qui font scintiller à l'intérieur, donnant aux visiteurs l'impression de pénétrer dans un essaim de lumière. Ensuite, il faut rappeler que le Perse est avec l'Égypte et la Mésopotamie le siège des plus vieilles civilisations de notre planète, datant des 3 et 4e millénaires. Nous avons pu voir une ziggourate, datant du 2e millénaire. Nous avons pu voir la longue procession des peuples soumis au roi de Perse, dans lequel il y a les traces des hindous, un bon nombre d'asiatiques et autres, apportant leurs offrandes, cela à Persépolis. C'est très intéressant. Cela suppose une religion que j'espère vous faire découvrir dans un mois. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pentecôte.